RCF. Et à 6h30, le journal, c'est avec vous, Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
Un bilan qui s'aggrave en Turquie et en Syrie.
Le séisme de magnitude 7,8 qui s'est déclaré hier a dévasté la région. Le bilan est à l'heure actuelle de plus de 4300 morts. C'est la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont appelé à manifester aujourd'hui 7 février. Des perturbations sont notamment à prévoir dans les transports. Et un dispositif de certification d'âge afin de bloquer l'accès au contenu pornographique aux mineurs. C'est ce que le gouvernement veut imposer d'ici septembre prochain, bien que cette industrie soit très difficile à contrôler.
Plus de 4300 morts, 18500 blessés et des milliers de personnes portées disparues.
Le séisme en Turquie a tout ravagé sur son passage. Le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont vu l'effondrement de milliers d'immeubles, ce qui laisse craindre un bilan beaucoup plus élevé dans ces régions. Récit de ces dernières 24 heures avec vous, Magali Santulli.
Il était 4h17 ce lundi 6 février quand la terre a commencé à trembler autour de Gaziantep dans le sud-est de la Turquie. Un séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre se trouve dans la province turque de Kahramanmaras mais qui s'est répandu en Syrie voisine. Des secousses ont même été ressenties au Liban ou sur l'île de Chypre. En Turquie et en Syrie, le bilan n'en finit pas de s'alourdir. Depuis hier matin, les secours s'affairent à retrouver des survivants sous les décombres, une opération qui n'a pas été facilitée par la nuit, le froid glacial, mais aussi les répliques de ce séisme. Un autre tremblement de magnitude 7,5 s'est déclaré notamment hier à la mi-journée. En tout, plus de 185 secousses ont été enregistrées. Pour les rescapés, des dortoirs ont été ouverts dans les gymnases ou même dans les mosquées. Mais par peur de nouveaux séismes, de nombreux habitants ont préféré passer la nuit dehors, comme à Sandurfa, dans le sud-est de la Turquie. À l'heure actuelle, des milliers d'habitants restent encore coincés sous les décombres de leurs immeubles, ce qui fait craindre à l'Organisation mondiale de la santé un bilan 8 fois plus élevé que les nombres initiaux.
L'aide internationale en Turquie doit cependant arriver aujourd'hui avec les premiers secouristes français et qataris. De son côté, le président Joe Biden a promis toute l'aide nécessaire à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Et en Syrie, le séisme a provoqué l'évasion d'une vingtaine de combattants présumés de l'État islamique. Ils se sont évadés de la prison militaire de Rajo, près de la frontière turque, profitant du chaos suite au tremblement de terre.
La réforme des retraites au cœur de l'actualité aujourd'hui.
Alors que s'annonce une nouvelle journée de mobilisation, les premiers débats sur la réforme ont commencé dans une ambiance électrique hier soir à l'Assemblée nationale. Série de rappels au règlement et suspension de séance ont retardé les discours des ministres. Les 14 prochains jours de débats, pendant lesquels les députés devront examiner pas moins de 20 000 amendements, s'annoncent donc longs et fastidieux. Laurette Duranel.
Madame la Présidente, Madame...
Couvert par un brouhaha total, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dû attendre une courte suspension de séance pour pouvoir défendre sa réforme.
C'est une réforme d'équité. Les régimes spéciaux ont leur histoire. Ils ont eu leur raison d'être et pour la plupart d'entre eux, ils ne se justifient plus. Mettre un terme à ces différences dont notre système a hérité au fil du temps, c'est avoir le courage que personne n'avait eu. C'est effacer des différences devenues incompréhensibles et c'est faire preuve de responsabilité financière.
Sans surprise, ces arguments n'ont pas convaincu ses opposants, parmi lesquels Sébastien Chenu, député RN, qui réclamait l'organisation d'un référendum.
La réforme des retraites qui est devant nous aujourd'hui est refusée par une majorité de Français, combattue, et pour une simple et bonne raison, elle est profondément injuste.
Preuve des tensions au sein de l'hémicycle, la gauche a déserté lors du vote de la motion référendaire du RN. Elle dénonce une mascarade car ses élus souhaitaient qu'une des deux autres motions présentées soit soumise au vote. Finalement, la motion a été rejetée à 272 voix contre 101.
Et hors des murs de l'Assemblée, c'est aujourd'hui qu'a lieu la troisième journée de mobilisation contre la proposition de loi du gouvernement à l'appel des syndicats. Après les dernières manifestations et grèves du 19 et 31 janvier, de nouvelles
nouvelles perturbations sont à prévoir pour aujourd'hui, notamment dans les transports. Un TGV sur deux en moyenne et 3 TER sur 10 pour la SNCF. Et au niveau des transports en commun, les métros et trains de banlieue seront également très impactés dans des villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Dans les airs, les prévisions sont identiques à celles émises pour les deux précédentes journées de grève. Un vol sur cinq annulé préventivement à l'aéroport d'Orly. Pas de chiffre de mobilisation en revanche pour l'enseignement, car de nombreux professeurs sont en vacances scolaires. Objectif du jour, pour l'intersyndicale, faire mieux que la journée du 31 janvier qui avait battu des records de participation. 1,3 million de manifestants selon les syndicats, 2,8 millions selon la CGT. C'est sur ces chiffres qu'on calcule la popularité d'un mouvement social. Mais à quoi correspondent-ils, Célia Götti ?
Eh bien, en réalité, nous ne savons pas comment ils sont calculés. La seule indication de la police et des syndicats, c'est qu'ils ont été comptés sur place. Une technique qui ne convainc pas Asael Adari, cofondateur du cabinet Occurrence, qui réalise également des comptages depuis 2008.
Ce n'est humainement pas faisable. Je vais vous donner les chiffres. J'ai repris toute la bande du comptage du 31 janvier et je l'ai fait moi avec mes yeux pendant 7 heures. Même en bande vidéo, vous êtes obligé d'y aller quasiment image par image. Et donc, comment on compte ça en flux réel le jour J ?
Occurrence ont, eux, choisi un dénombrage informatique grâce à une vidéo révisée manuellement. Résultat, le 1er janvier, ils ont compté à Paris seulement 55 000 manifestants, un dixième du chiffre annoncé par la CGT et 30 000 de moins que la préfecture. Ils ont été accusés de partialité et de sous-comptage par LFI. Alors, quelle est la bonne technique ? Moyenne de densité sur les lieux du départ et d'arrivée, comptage un par un à un point clé du cortège. Asael Adari reconnaît ne pas avoir la réponse parfaite, mais il insiste, ce qu'il faut, c'est surtout de la transparence sur la méthode.
Merci Célia.
Du nouveau sur la politique nucléaire.
Vendredi dernier, Emmanuel Macron réunissait à l'Élysée un conseil politique nucléaire exceptionnel. Un an après le discours de Belfort et l'annonce de 6 réacteurs nucléaires EPR2. L'exécutif table sur une mise en service en 2035, mais un débat public est toujours en cours, tout comme des discussions autour du vieillissement de notre parc nucléaire français. 40, 50, 60 ans, plusieurs âges de départ à la retraite sont évoqués. Et pour prendre une telle décision, l'administration française doit renforcer les contrôles et les dispositifs de sûreté nucléaire. Explication de Julien Collet, directeur général adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire.
Pour définir la politique énergétique, il faut être en mesure de se projeter à un plus long terme. Donc c'est le travail que nous venons d'engager avec EDF, qui est d'aller au-delà des 50 ans et de regarder quel est le potentiel de durée de vie des réacteurs français. Les réacteurs américains sont plus anciens que les réacteurs français. Ils ont, pour certains d'entre eux, déjà effectué ce travail. En France, il faut regarder les choses, il faut les regarder de manière scientifique et rigoureuse. Ce que nous allons demander à EDF, c'est d'une part de faire un point zéro, c'est-à-dire de nous dire, au vu des connaissances actuelles, quelle est la durée de vie que l'on peut calculer pour les réacteurs. Et puis, dans un second temps, EDF, il estime être en mesure de faire évoluer les méthodes de justification. Donc, nous allons examiner ces méthodes de justification pour voir si effectivement elles sont acceptables du point de vue de la sûreté. Puis, regarder quelles sont les conséquences de ces nouvelles méthodes en termes de calcul de durée de vie.
Le vieillissement de notre parc nucléaire et l'âge de départ à la retraite de nos réacteurs, on en parlera plus longuement à 7h15 dans le dossier de la rédaction. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables s'apprête à être voté aujourd'hui au Sénat. Le texte porté par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a pour objectif de faire rattraper à la France son retard sur les énergies renouvelables. Objectif fixé par le président, multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire et déployer 50 parcs éolien en mer d'ici 2050. Le texte s'articule en grands volets. Allègement des procédures administratives pour réduire le temps de déploiement des projets, accélération du développement de l'énergie solaire et de l'éolien en mer et enfin, amélioration de l'acceptabilité locale des projets. Après avoir fait l'objet d'un compromis entre députés et sénateurs, le projet de loi doit être adopté dans l'après-midi.
Le gouvernement s'attaque à un nouveau serpent de mer, le blocage des sites pornographiques aux personnes mineures.
Dans une interview au Parisien, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique, indique vouloir imposer d'ici septembre prochain un dispositif de certification d'âge afin de bloquer l'accès au contenu pornographique pour les mineurs. Une ambition sur laquelle beaucoup de monde s'est cassé les dents à cause de la question de la protection des données personnelles. Pire, selon la loi française, depuis 2020, le dispositif de contrôle des sites pornographiques tel qu'il existe actuellement n'est même plus légal. Sauf que personne ne le respecte, car cette industrie est très difficile à contrôler, nous explique Annick Billon, sénatrice centriste de Vendée, présidente de la délégation aux droits des femmes et co-rapporteuse du rapport sur l'industrie de la pornographie.
Il ne s'est rien passé depuis plus de 20 ans. Parce que avant les années 2000, l'industrie de la pornographie, c'était l'abonnement à Canal+, c'était les petites salles obscures et c'était des vidéos qu'on pouvait louer. À partir des années 2000, c'est l'avènement des chaînes YouTube, l'arrivée du smartphone et donc l'industrie de la pornographie s'est très vite adaptée. Il y a eu une massification de la production et il y a eu aussi une massification de la consommation puisque c'est le seul produit qu'on pourrait même dire drogue qui est finalement gratuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc depuis plus de 20 ans, cette industrie s'est développée sans aucun frein dans le monde, puisque on le sait désormais, oui, il y a des faiseurs, des entreprises en France, mais les grosses entreprises qui dirigent cette industrie, leur siège se trouve dans les paradis fiscaux. Vous avez une économie qui est extrêmement lucrative et extrêmement internationale.
Annick Billon, joint par Baptiste Madinier. À l'étranger, des incendies spectaculaires au Chili. Les feux qui ravagent depuis plusieurs jours le centre du pays latino-américain ont fait 26 morts en moins d'une semaine. Des centaines de blessés sont à déplorer et des milliers de destructions de maisons. Aidés par les hautes températures de l'été austral, les feux ont détruit 270 000 hectares jusqu'à présent. Les pompiers chiliens n'arrivent pas à venir à bout des 280 incendies en cours.